Donc, nous continuons avec nos amis du chien d'en. Et je crois que c'est Maryse qui va redémarrer.
C'est cela. Oui, je reviens sur ce que tu disais, Annie. Tu disais qu'il fallait absolument un cadre qui permette aux travailleurs d'une zone géographique restreinte de pouvoir s'unir et lutter ensemble. Et moi, je trouve ce que tu disais là, c'était important. Parce que ça veut dire que l'organisation sort de l'entreprise, qu'elle sort de la profession, du secteur professionnel, qu'elle sort de la catégorie, et qu'elle permettrait de s'inscrire au niveau de la vie quotidienne, d'un quartier, d'un village, d'une commune, ce que tu appelles d'ailleurs une zone géographique de proximité. Donc, en fait, les syndiqués partageraient l'organisation de leur vie, de leur cadre de vie. Ils feraient de la coopération, de production, de distribution, etc. Enfin, ils organiseraient de manière autonome leur vie culturelle. Ils seraient amenés même à l'administration commune de cet espace géographique social. Et bien sûr, ça implique la participation de tous et de toutes, et à toutes les tâches. Bon, évidemment, peut-être différemment selon les envies des uns et des autres, mais quand même une exigence de partage des tâches qui évite la division du travail, qui est quand même la source première du hiérarchisme dans l'histoire de l'humanité. Je souligne l'importance de cet élément dans cette conception du syndicalisme comprofessionnel parce qu'il donne, en fait, il donne corps à l'idée d'autonomie. Et sans autonomisation du prolétariat, eh bien, il ne peut pas y avoir d'émancipation.
Oui, et donc, il faut qu'un principe fédératif rassemble les différents cadres communaux ou de quartier. Mais ce principe fédératif, il ne faut pas que, pour que ne renaisse pas le hiérarchisme, eh bien, il devra être du plus sommaire et être privé de toute décision hors de la vie des communes.
Oui, alors après, moi, je me pose une question aussi. Ne va-t-on pas nous dire que c'est un réseau?
Oui, c'est vrai, on peut dire ça, mais on répond que non, non, parce que le réseau comme le mouvement social et leur apologie de l'associationnisme sont aclassistes. À l'opposé, le cadre syndical d'autonomie prolétarienne pour l'émancipation, c'est un cadre syndical que construit la classe des exploités.
Oui, d'accord, mais il existe actuellement des expériences d'entraide, de coopération, par exemple, dans les circuits de production ou de consommation.
Ça c'est sûr. Hein. Moi,
Ah oui.
on connaît tous, il y a les AMAP, par exemple. C'est une forme de
Ah oui.
circuit d'entraide. Mais bon, ça concerne que très rarement un collectif large de travailleurs, quoi. Les AMAP, par exemple, ça relève bien d'une solidarité, enfin, entre les producteurs, productrices et consommateurs, hein, consommatrices. Mais bon, quand je vais, moi, quand le consommateur va dans une AMAP, il n'a pas voix au chapitre sur le type de production à mener, développer, ni sur les produits vendus, la manière de vendre. Bon. Et on reste quand même dans un échange qui est bon teinté de solidarité entre les producteurs, les consommateurs, mais ça reste quand même un cadre de société de consommation. C'est un peu calqué malgré tout sur la même architecture globale, quoi. Même s'il y a ce côté suivi, solidaire, attentif, bon, avec des préoccupations quelquefois autres que la pure consommation, mais on reste sur un schéma classique de société de consommation.
Le cadre syndical comprofessionnel, ainsi défini, mais donc au cœur de sa conception, à côté de la lutte des
Tu
classes.
veux parler du combat contre les patrons qui veulent toujours plus s'exploiter?
Oui, c'est ça. Il met donc à côté la lutte pour de nouveaux rapports humains. Or, dans la société capitaliste, le rapport humain est pétrifié dans et par le processus de l'aliénation. Et pour en sortir, pour le combattre, ce processus d'aliénation, il n'y a que la réflexion collective et qui pose de telles questions. Par exemple, quelles modalités de discussion permettent d'éviter les prises de pouvoir par l'emprise mise sur la parole? Et pour éviter ce travers que toutes les réunions militantes connaissent, Il faut accepter un autre rapport au temps, accepter de ne pas se réfugier dans l'urgence pour court-circuiter les discussions, où ce sont toujours les mêmes qui cèdent leurs paroles et où d'autres imposent la leur, acceptant à l'inverse à une position de pouvoir sur le groupe. Et il faut donc œuvrer à des modalités de groupe, de paroles de groupe, qui prennent valeur de commune sociale. Et je veux évoquer une situation qui permette à chacun, à chacune, de pouvoir parler. Et c'est un apprentissage de groupe qui nécessite de comprendre les paroles expertes dans l'échange en commune discussion.
Alors tu as raison, il est vrai que la pratique de la parole, on n'y pense pas assez. Réfléchir à cette pratique s'oppose au fonctionnement actuel syndical avec sa centralisation, avec son goût pour la délégation, sa priorité qui est donnée aux paroles, justement désignées comme expertes, etc. Enfin, toutes choses qui, en un peu plus d'un siècle d'existence, ont fini par conformer les appareils syndicaux, anciens comme nouveaux d'ailleurs, hein. On ne refuse pas fermement et consciemment tout argument d'autorité sans traquer, dans la pratique même de nos propres discours, les naissances de la hiérarchie de parole ou les renaissances de la hiérarchie de parole. Et l'anti-hiérarchisme commence peut-être là, par ce refus de parler à la place des autres, par le refus de parvenir à la parole au détriment de la parole des autres. Tu disais l'autre jour, Annie, quand quelqu'un n'est pas écouté, alors c'est que le groupe ne fonctionne pas comme groupe, qu'il n'élabore pas une parole commune de groupe.
Ce qui n'est qu'une manière de refuser la délégation de parole.
Oui, ce qui est sûr, c'est que le syndicalisme d'autonomie prolétarienne pour l'émancipation, comme on l'appelle, le SAP, en fait, appuie sa construction sur la controverse. Et la controverse, c'est un mode d'échange coopératif, hein, en coopération, qui permet le mieux, à notre avis, d'exprimer et d'appréhender la réalité du champ économique et social, la réalité conflictuelle. Enfin bref, la lutte des classes. Et c'est en s'opposant qu'on se construit, aussi bien en tant que groupe qu'en tant qu'individu. Alors en s'opposant, c'est-à-dire en mettant un principe en pratique, mais pas en dénonçant, parce que la dénonciation est critique de l'autre et efface même sa propre pratique. En fait, il faut être lucide au niveau de l'analyse et honnête. Et avoir une honnêteté intellectuelle contre tous ces consensus discursifs qui engendrent la mollesse de la pensée. Et ça aussi, on l'a souvent, souvent vécu. Et qui mène à l'enlisement dans le conformisme. On peut dire même dans les marais du conformisme.
C'est dans les marais du conformisme.
Ça, c'est une bonne image.
En s'opposant et pas en dénonçant. Tu as bien raison, Maryse. Et ne peut-on pas dire que c'est parce que le syndicalisme d'autonomie prolétarienne pour l'émancipation, le SAP, a le souci d'une pratique égalitaire de la parole en son sein, que ces syndiqués pourront, d'autant mieux, amener la pratique de la controverse dans l'Assemblée générale du syndicat, Assemblée générale poumon de la grève, Assemblée générale structurante de toute mobilisation, qui ne se fait pas sur le dos des prolétaires, mais par elle et eux.
Finalement, pour nous, qui sommes un peu des irréguliers du syndicalisme, tout se tient. Et nous exigeons de porter haut, c'est-à-dire dans la pratique, la rigueur de ces principes. On ne construit rien quand on baisse les bras sur les principes. Se défaire du quant à soi, se défaire de l'emprise de la prestance des paroles, c'est exigeant, mine de rien. Mais ça revient, et tu l'as bien dit, Maryse, à appliquer le refus de parvenir. Refuser de parvenir, c'est refuser de prendre le pas sur les autres par le biais d'une hiérarchisation des fonctions sociales, des places prises dans le procès de production ou de reproduction. Le refus de parvenir, c'est refuser de rompre avec sa classe, c'est-à-dire de prendre une place hiérarchique sur l'échelle sociale bourgeoise. Refuser de parvenir, c'est refuser d'être l'oppresseur d'un autre, par exemple, de prendre une place de commandement. Bref, refuser de parvenir, c'est rester prolétarien.